Nous sommes mercredi 12 avril 2023, il est 21 h et vous écoutez le Dojo Bar.
Bah
bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Muse.
Bonsoir.
Bonsoir Mecton.
Bonsoir.
Mecton qui a un rhume. Alors c'est l'Australie qui t'a donné un rhume, c'est un rhume, le rhume du crocodile, hein, on a dit. C'est ça, hein.
Tout à fait.
Donc tu as mangé du crocodile et ça y est, t'as un rhume. Merde.
C'est ça. Ah, c'est des écailles qui poussent.
Ça nous rappelle les souvenirs avec les pangolins.
C'est les pires années de notre... Attendez, pas du tout.
Il va revenir avec le cochon. C'est ça que t'es en train de dire.
Hein? Tu disais?
Mecton est un reptilien maintenant, vu que c'est
ça. Oui.
Bah déjà, il a confirmé qu'on marchait pas la tête en bas, ce qui est une connerie, comme nous le savons tous.
Ah oui, il aime bien Xenoblade 2, faut au moins être reptilien pour aimer ça.
C'est ça. Bonsoir Zergy.
Salut.
Bonsoir, voilà. Au programme de ce soir, le chat miaule, on sait pas pourquoi.
Charles est mignon.
C'est pas grave.
Au programme de ce soir, c'est pas grave. Regardez une émission en direct. Les studios, je vous jure, cette organisation. Au programme de ce soir, donc Super Mario Bros. Le film, je crois que c'est. Alors, c'est pas la première fois qu'on va parler de cinéma dans le Dojo Bar, parce qu'on a déjà de temps en temps fait une allusion ou deux à un film. Ouais. Mais ouais. C'est la première fois qu'on va avoir un sujet dédié à un film.
On n'a pas parlé de Sonic le film
si,
à un
on
moment.
A parlé de Sonic.
Alors, on a... c'est pas un film. Non.
Mortal a pas parlé de Sonic le film à un moment.
Il y a pas de film. C'est pas un film.
Non mais il nie d'avoir été le voir au cinéma, mais il y est allé.
Pas, je nie
mais
pas.
Nous on sait qu'il y est allé. On a les preuves.
Exactement. On a les preuves.
Non mais je sais. Moi j'étais là présente avec lui.
C'est bien grand mot.
Et moi. Il est rentré tout à fait volontairement dans la salle. Il a pas.
Tu as dormi au milieu.
Non, j'ai pas dormi.
Dormi
non, c'est pas celui-là sur lequel j'ai dormi.
Très bien. Donc nous parlons de Super Mario Bros. Le film. Je sens que cette émission va galérer du cul, mais un truc de ouf. Et nous allons parler Re-Survival, donc le revival du survival. Et nous allons commencer tout de suite par notre traditionnel tour de table de l'actualité. Je vais laisser la main à Mecton, qui va nous parler de Persona 3.
Ouais. La rumeur était grandissante depuis un petit temps, et là, a priori... alors, je dis a priori parce que je ne l'ai pas vu, j'ai vu plein d'articles dessus, des screenshots et compagnie, mais aurait fuité une petite vidéo d'un très probable remake de Persona 3. Et là-dessus, je vous conseillerais l'article de... Je crois que c'est ActuGaming qui a fait un truc sur pourquoi c'est une bonne idée de faire un remake de Persona 3. Et la principale raison, c'est que le jeu a pris un petit peu la poussière. Et surtout, la société a évolué et il y a des choses qui se passent dans le jeu qui pourraient faire tiquer quelques esprits chonchons actuels de nos jours.
Tu penses par exemple à...
Bah, tu vois, les gamines de 16 ans qui tombent amoureuses d'un gamin de 10 ans, tout ça, ça peut faire
ah ouais, c'est, un c'est
peu
moyen peut-être.
Voilà.
Japan Superior.
Nous accueillons Monsieur Jean Fulgence qui n'arrive pas du tout à la bourre.
Hein? Oh, c'est encore les pubs. Fais chier.
Bien essayé, mais non.
Ah, dommage.
Alors, effectivement, on nous signale dans le chat en prime qu'il y a le trailer, le second trailer de, Zelda, celle du royaume, qui sort demain à 16h et ce sera le dernier trailer avant la sortie du jeu. Et après, il restera 29 dodos. Soit 4 manifs.
Oh, alors, peut-être plus, les... hein. Il y a toujours des manifs sauvages.
Il y a toujours des... Oui, monsieur...
Bah, 29 manifs, du coup.
29 manifs. 29 blocages.
On va compter en dodo, maintenant. Faut compter en manifs.
Ah, on va compter en manifs.
4 manifs et 20 barricades.
Voilà, c'est ça.
Voilà, ça, c'est bien, ça. Voilà, la deuxième actu... Alors, ça va être très, très tour comme cours de table de l'actu. Je parle
très,
plus
très
le
court.
Français, wow. C'est pareil.
Très court, tu voulais dire.
C'est pareil. Un remake de Dead Space façon PS1 est disponible sur itch.io. Pas très très difficile à trouver.
Alors, c'est pas The Callisto Protocol, le remake de Dead Space.
Ouh. Ça fait mal, mais en fait non. Voilà, c'est un peu. Merde. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, on avait évoqué le remake de Bloodborne, qui était pareil fait sur Unreal Engine et dont l'objectif était vraiment de recréer Bloodborne comme s'il avait été programmé sur PS1 avec le même genre de technique, c'est-à-dire les textures un peu foireuses, tout le truc low poly, du brouillard, des comment dire, des polygones qui pop, des choses comme ça. Donc voilà, c'est...
Des caméras foireuses.
Alors non, la caméra est plutôt bien en l'occurrence. C'est un peu dommage, ils sont pas allés jusqu'au bout de la démarche. Mais voilà, des filtres CRT très à la con, de la modélisation vraiment hyper basique. Enfin voilà, c'est très très rigolo. Ça dure pas hyper longtemps, je crois que t'as genre une petite demi-heure de jeu, quelque chose comme ça. Moi j'ai fait genre les 10 premières minutes, histoire de voir ce que ça donne. Je trouve ça toujours hyper impressionnant de recréer complètement un jeu, mais avec des technos... un peu obsolète, alors c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est quand même de l'Unreal Engine 4 pour recréer un jeu PS1. Donc ça aurait jamais tourné sur PS1. Hein, soyons très clairs. Mais,
sauf si tu, même si tu mets la console à l'envers.
Même si tu mets la console à l'envers. C'est triste, hein. Même avec une puce, la fameuse puce qui permet de booster la puissance
la
de la
PS1. Cachée.
La puce cachée. À ne pas confondre avec la puce cachère, hein, c'est pas la même. C'est pas la même chose.
Ouais, putain, me dis pas ça quand je suis en train de boire, putain.
C'est ton problème, mon gars. Voilà, donc un petit remake qui fait bien plaisir. Je vous le recommande, c'est gratuit. Allez-y tant que ça se fait pas striker, parce que comme c'est Electronic Arts, c'est pas gagné que ça reste. Voilà, en plus c'est gratuit.
Oh, oui.
Ça fait plaisir.
Merde, tu me fais penser. Electronic Arts, à propos de Strike, a striker American McGee. Et du coup, il y aura pas de suite à... Alice.
Il n'y aura pas de suite à Alice, lequel? Alice American McGee's Alice ou Alice...
Celui-là. Non, l'autre. American McGee's Alice. A priori, American McGee a présenté un pitch pour un troisième jeu à Electronic Arts. Et Electronic Arts a dit, va te faire foutre.
Super. Merci Electronic Arts.
C'est con.
Bah, je pense que le deuxième, c'est pas hyper bien vendu. Hein.
Dommage. La licence, elle est acquise. Enfin...
Elle est à qui? Elle est à nous? Attendez, pas du tout, non, excusez-moi.
Elle est à IE, c'est pour ça qu'ils ont le droit de lui dire d'aller se faire mettre. C'est dommage.
Ils peuvent pas aller... Oui, pour aller voir un studio et puis faire un truc qui s'en inspire.
Techniquement, voilà, techniquement... Bah alors en fait, alors, si je peux prendre... Techniquement, Alice au Pays des Merveilles, le personnage d'Alice, l'intégralité du roman, des deux romans de Lewis Carroll d'ailleurs, Alice au Pays des Merveilles et De l'autre côté du miroir, sont dans le domaine public. Donc normalement, n'importe qui peut faire un jeu vidéo Alice. Je ne sais pas quel élément exactement Electronic Arts peut posséder là-dessus, peut-être les assets, les objets, peut-être certains, même les personnages, je vois pas. Le chara-design, en fait. Ça se discute. Et en même temps, il est très Tim Burton, le chara-design.
Bah,
excuse-moi,
il a pas... Tim Burton, il a pas dit vous arrêtez de piquer mon style.
Non. Techniquement, donc en vrai, il pourrait tenter la route indé, sauf que je pense que pour faire un jeu comme ça en 2023, faut quand même un peu de thunes, donc. Je sais pas ce que ça va donner. Mais bref, bon, ça fait un peu chier, mais c'est comme ça.
Ouais.
C'est vrai, s'ils sont pas connus, ça va être compliqué. Mmh.
C'est ça. Alors, à moins d'un financement participatif, mais qui serait réussi, enfin, tu commences à empiler des conditions un peu compliquées. Bref, après ce très court tour de table de l'actu, nous allons marquer une première petite pause musicale. Nous allons nous écouter un petit morceau de la bande originale de Signalis, qui nous est proposé par monsieur Jean Fulgence, qui a été fouillé dans la bande originale pour nous dégoter quelques morceaux de bon aloi, j'ai envie de dire. C'est composé par Cicada Sirens et Thousand Eyes, donc deux collectifs. Je ne crois pas qu'on ait les noms exactement des artistes, mais voilà, deux collectifs. Le morceau dure un tout petit peu plus de 2 minutes 30 et s'appelle The Promise. Et nous voilà de retour. Toujours avec Mecton SMR en direct de Brisbane, Australie. Ça. Ah non, c'est chaud patate. Hein. On va avoir du mal quand tu vas revenir en France. Hein, si tu nous refais des tours normaux, Léon.
T'as si je tape du pied, vous m'en là.
Au prochain tour, est-ce que tu peux mettre ton micro près des chiottes, tu sais, au moment où ça fait le.
Deal. Au moment où il y a l'aspiration. Alors ça, il faut que je le dise pour les gens. Je suis au 13e étage de l'hôtel. Régulièrement, une fois tous les 3 quarts d'heure, j'ai les chiottes où il y a un bruit d'aspiration. J'ai demandé à la réception si c'était normal. On m'a dit oui, c'est pour virer les rampants.
Voilà. Ah oui, parce qu'il y a des baits.
Il y a des baits.
Il y a des baits en Australie, oui.
C'est pour virer les chauves-souris géantes.
Et on ne parle pas des anglais.
C'est pour tout virer.
Oh, ça y est. Oh là là, ça y est, ça taille. N'importe quoi. Bref.
Non, mais ben, c'est pour ta propre protection.
C'est pour ta sécurité.
Voilà.
C'est pour ta propre sécurité. Bref, nous allons donc revenir sur Super Mario Bros. Le film que nous avons presque tous vu ici, je pense. Alors, Mecton, peut-être pas.
Pas encore.
Non, mais moi non plus.
Tu peux voir en VO.
Désolé.
Je peux pas le voir en VO. Vous pouvez peut-être en parler, d'ailleurs, du coup.
Mais si, pourquoi?
Il va falloir qu'on en parle. Donc, c'est la première fois qu'on parle d'un film, donc je sais pas trop comment on va commencer. Enfin, je veux dire, d'un vrai film.
Déjà, ça va être chiant parce qu'il faut pas spoiler. Ce serait bien.
Alors, il y a pas grand chose. Alors, on va quand même commencer par dire, il y a pas grand chose à spoiler.
Parce qu'on peut être d'accord là-dessus.
En vrai, ouais, non.
À part 2-3 scènes, quasiment, vous avez le gros du film dans la bande-annonce. En tout cas, vous avez les gros des scènes.
Est-ce qu'on parle de la version d'il y a 30 ans?
Alors, ça pourrait être, si on était vraiment des connards, c'est ça qu'on ferait. Si on a dit qu'on parlait de Super Mario Bros. Le film, on parle de celui d'il y a 30 ans.
Non.
Bah, ça aurait été un
peu tard, parce que c'est...
C'est pas ça qu'on fait, en fait.
Non, c'est pas celui-là.
Ah merde, j'ai rien compris.
On n'en parle plus, s'il vous plaît.
Oui, ce serait bien d'arrêter. Alors,
c'est dommage, ça aurait été une bonne blague pour l'émission précédente.
C'est ça.
Oui,
mais c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard. C'est trop tard.
Le premier film était la malaisance absolue, donc on va éviter.
Voilà, donc...
Il y a des moments de valaisance dans le nouveau, mais...
Super, oui, il y a des mais qui sont voulus. Donc Super Mario Bros. Le film, encore une fois, il n'y a pas grand-chose à spoiler, effectivement, si vous avez vu les 2 ou 3 bandes-annonces, je pense que vous avez quand même...
Si vous avez joué à Mario, vous connaissez le scénar, quasiment.
C'est ça. Ce qu'il faut dire, c'est...
Une grosse référence à plein de jeux, et c'est cool, mais...
Voilà, il y a plein de références. Alors moi, ce que j'avais noté, c'est... effectivement, il y a... On est dans un très bon film d'animation, c'est très bien animé, c'est très joli.
Ouais, c'est beau.
Alors on peut commencer par dire que c'est Illumination, donc le studio qui fait Moi moche et méchant, les mignons.
Mm-hmm,
pas mal, non? C'est français.
Et c'est français.
Ah oui.
Il y a beaucoup de choses, effectivement, quand tu regardes le générique de fin, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en France, et ça c'est top.
Oui.
Pour le coup, on peut être fier, Cocorico, de nos animaux.
Et au Japon, parce qu'on peut aussi... On peut aussi voir qu'au début du film, il y a Illumination, il y a Nintendo, en gros, donc c'est pas genre on a laissé la licence. Et puis dans le générique de fin, tu as Koji Kondo, tu as Shigeru Miyamoto, tu as plein de gens, tu as quand même une spéciale case dédiée Satoru Iwata, ce qui fait quand même bien plaisir.
Ah, mais Miyamoto, il est carré producteur, hein.
Complètement.
Il apparaît aux côtés du directeur d'Illumination, je crois.
C'est ça, je pense que Illumination a dû sentir la chape de plomb de Nintendo pendant tout le projet, parce que tu sens que le film il déborde pas beaucoup.
Ouais, c'est un peu dommage du coup. On espère, mais je pense qu'il y en aura un deuxième parce que voilà.
Il y avait les Yakuza sur le tournage.
Ouais,
je pense que c'est
non,
ça.
Je sais pas, mais globalement, en fait, si tu à part quelques sorties de pistes fun, effectivement, c'est.
C'est très attendu.
C'est très attendu.
Bah, en vrai, à part Peach, globalement, on est dans le canon des personnages Nintendo. Hein.
J'aurais dit le Luma qui est
Luma
un peu.
Dépressif,
voilà, le Luma
même,
dépressif.
Il est trop dans le canon Nintendo quand même.
Ouais, mais pour le coup, Peach, on peut le dire dans les bandes annonces, mais globalement, c'est pas la demoiselle en détresse dans celui-là.
Bien sûr. Mais
le pitch, c'est que globalement, c'est Mario et Luigi qui sont perdus dans le royaume champignon alors qu'ils bossaient à Brooklyn.
Mm-hmm.
Enfin, Mario s'est retrouvé dans le royaume champignon, Luigi s'est retrouvé dans le royaume de Bowser, et en gros, Mario accompagne Peach pour.
C'est pas Mario le héros, on est d'accord.
C'est grâce quand même lui le héros, mais.
Bah, en gros,
Mario accompagne Peach qui.
Ouais.
C'est la suite de Super Princess Peach en fait.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu ce que je ressens, c'est que globalement, même si depuis le début c'est quand même Peach la princesse en détresse, etc. Globalement, récemment en tout cas, elle a changé un peu son rôle hein, quand même de princesse en détresse. On a quand même eu des trucs un peu sympas.
Ça dépend. Mario Odyssey, c'était bien la princesse. Enfin, c'était princesse en détresse vite fait.
Elle était pas tant en détresse que ça. Elle se baladait dans les niveaux. Elle était pas. Voilà, elle était là en touriste.
Et la chute. la chute.
Ouais, elle se baladait au niveau à la
drôle là-dessus. Hein.
Ah pardon, j'ai pas entendu Mecton. Décalage avec l'Australie.
La chute de Odyssée est très très bien concernant.
Oui,
tout à fait. Mais du coup, c'est ça qui est, c'est ça qui est sympa aussi dans le film, c'est que tu retrouves un peu de ça aussi.
C'est sympa de surtout de passer de Peach princesse en détresse pendant des millénaires et puis que là marquer le coup avec un gros film où Peach est mis en avant et plus proactive dans l'histoire.
Bon, surtout, elle fait des coups de pied sautés en permanence. Hein.
Ah, mais c'est la version Smash Bros. Ah,
bah,
d'accord.
Il y a une belle
référence. Alors, on va en parler, on est un peu obligé. Il y a effectivement, le film est absolument bardé de références, comme on pouvait s'attendre. T'as un univers très riche, donc forcément, il y a énormément de références, sans que ça tombe trop, alors, sauf par moment, dans le fanservice très très abusé.
Moi, pour Clint, c'était un peu l'overdose. Hein.
C'est-à-dire
t'as un truc de référence. Alors, en fait... T'as Mario qui joue vraiment à Kid Icarus sur sa NES. Bon, là j'ai fait ok, c'est un peu too much. Brooklyn, en fait, si tu regardes bien les décors et les magasins, la majorité c'est des noms de jeux, notamment de l'époque NES. Notamment le restaurant français Chasseur de Canards, qui m'a beaucoup fait. Je sais pas si c'est un restaurant français, mais dans ma tête c'est ça. T'as la pizzeria Punch Out, qui a une borne d'arcade.
Son ennemi juré qui s'appelle, qui travaille dans l'entreprise Wrecking Crew. Alors celui-là c'est pareil, il est pas connu par grand monde, mais.
Ouais, mais alors c'est
une grosse référence de nerd, ça.
Ça s'adressait plus du coup aux nerds et machins, et je pense que les gamins qui sont allés voir ça, ils ont vu certains trucs, parce que par exemple, la mère de Brooklyn, la mère de la ville, qui bon, c'est officiellement la même que dans Mario Odyssey, etc.
C'est Pauline.
Et donc, là, t'as la ref, mais pour le reste, c'est assez. Si tu connais pas bien l'univers de Mario, si t'es juste un gamin qui a commencé à jouer, sur Odyssey ou sur Smash Bros, au final ces références là tu les as pas. Par contre effectivement Peach qui fait passer à Mario un test de plateforme
c'est quand même assez curieux.
Et oui enfin clairement il y arrive, mais enfin au bout de la 50e 600e fois il se foire et tout, et où elle te dit ah non mais moi aussi je me suis foiré, bon, à vous vas-y, non mais en fait je l'ai fait qu'une fois et j'ai réussi du premier coup, et tu fais ok d'accord, bon bah donc c'est quand même un peu plus badass quoi. Mais après il manque des persos, moi j'espère vraiment que le 2 donnera un petit peu de référence à d'autres persos.
On parle déjà du 2 quoi, ça y est,
mais moi j'ai adoré la référence à Luigi's Mansion quand il arrive sur le monde noir de Bowser, parce que du coup le coup de Mario avec la lampe torche, ça c'est trop drôle,
c'est vrai que ça c'est très référencé,
c'était une super référence. Les mascas et leur fusée,
ça c'est ma fusée bâtard.
Voilà,
c'est pas une vraie référence,
effectivement les références amorcelles dans Mario Bros le film étaient surprenantes.
Pour les gens qui n'ont pas vu le film, ce n'est pas vrai, il n'y a pas de référence à Morcet dans Super Mario Bros.
Non, mais
film.
C'était marrant quand même, voilà.
Mais ça, c'était le gamin. Hein, qui...
Oui, non, mais c'était voilà, marrant.
Ça, c'est ma fusée, bâtard. Très bien, ok.
Voilà.
Plus de savon.
Il nous manque, Toad. Alors Toad, il est complètement délirant et ça fait plaisir de. Mais si, attends.
Ah, il est pas si délirant.
Mais il est craqué. Il est complètement il est sous crack.
Alors pas d'exemple, pas de spoil. Faut non, pas spoiler
désolé,
les gags.
Désolé,
il y a que les gags qu'on peut spoiler, donc faut pas les spoiler.
Non mais voilà, tout de suite il intègre Mario comme son meilleur ami alors que le mec il l'a rencontré 2 secondes avant.
Parce qu'il est très amical, c'est un champignon amical.
D'accord, ok, très bien, mais c'est trop. Et le coup de je divertis, par exemple, tu vois, je divertis les gardes en faisant à bouffer. What the fuck? Qu'est-ce qui se
alors
passe?
Alors ça, j'ai pas compris s'il y avait une vraie référence là-dedans.
Mais j'en sais rien non plus parce que ça me dit rien.
Non,
il y a une référence à Captain Toad, parce qu'il a une...
Ouais, il a un sac à dos et machin, mais il a une poêle.
C'est Captain Toad, hein, potentiellement.
Ouais, mais si tu veux, pour moi, la poêle à frire, justement, tu vois, c'est plus Peach, du coup.
Oui. C'est vrai qu'il y a la poêle à frire.
C'est l'arme de Peach dans Smash Bros, donc j'ai pas compris pourquoi c'est Toad qui avait la poêle à frire, mais ok, admettons.
Parce qu'elle a une hallebarde.
C'est le taux de baroudeur, parce qu'il peut pour faire un peu partout. Je pense qu'il faut pas aller chercher trop loin là pour le coup.
Oui, je pense aussi. Ouais. Après, il y a plein de trucs où il y a des gens qui vont vouloir trouver des références là où il y en a peut-être pas aussi.
Mais non, mais tu vois, on a eu un Luma, mais on n'a pas Harmony. On a Toad, mais on n'a pas Toadette. Daisy, elle l'a pas vu.
Alors Illumination, si tu nous écoutes, tu peux venir à la maison.
Ça sera dans le 2. Ça sera dans le 2.
Voilà. Enfin,
Muse va te donner toutes les références qu'il faut que tu mettes. Et puis c'est bien.
On a vu Yoshi 5 secondes. Vraiment 5 secondes. Alors après, il y a la d'autres trucs, mais on a vu Yoshi 5 secondes. C'est dommage.
C'était une référence à Smash Bros aussi d'ailleurs.
C'est une référence au speedrun.
Tu le vois que 5 secondes.
Enfin voilà, il manque. Enfin après, je dis pas Waluigi, Wario, etc. Ce sera certainement les méchants du 2, peut-être. J'en sais rien. Ou en tout cas, il y aura quelque chose. Mais tu vois, il manque ces deux-là aussi.
Waluigi, non, il ne manque
pas.
Parce
Birdo,
que je rappelle qu'il n'est pas dans Smash Bros.
Ouais, mais c'est triste. C'est quoi.
Maintenant, pour reprendre un petit peu.
C'est pas très grave qu'il manque autant de persos, parce qu'il y en a déjà pas mal, et le film fait 1h30. Et après, on peut parler juste du rythme. Le principal souci que j'ai avec le film, qui est, c'est que le film va très très vite et prend vraiment le temps de mettre quoi que ce soit en place, à part. Très vite, on t'explique que Bowser va attaquer le pays, et c'est très rapidement. C'est très rapidement mis en place, il n'y a pas plus d'explications. Mais tout le film est un peu comme ça, et ce qui fait qu'en plus, si on avait rajouté des persos, je pense que ça aurait été assez imbuvable, parce que ils prennent tellement de trucs, finalement, les quelques persos qui sont à l'écran, ils n'ont pas trop le temps de briller, je trouve. Enfin, typiquement, le cher Donkey Kong, et je l'aime beaucoup, et je suis très content qu'il soit là, mais j'ai l'impression qu'il est un peu sous-utilisé, par exemple.
Je suis d'accord avec toi, ça enchaîne très vite, et effectivement, le passage chez les Kong avec Cranky, et puis Donkey, et puis on a vu Diddy Kong, pareil, 2 secondes et demie.
Ah bah il y a aussi Dixie et Chunky Kong dans le décor.
Ouais,
hein.
Ouais, mais ils sont dans le décor, tu vois. Je suis d'accord, il manque des choses. Après, je pense que c'était... Enfin, je sais pas si c'est histoire d'installer une série, et il y a moyen, parce qu'avec Illumination, on a quand même eu... ils sont quand même bons en termes de série, si tu veux, entre Moi Moche et Méchant 1, 2, 3, Les Mignons 1, 2, je sais même plus s'ils sont pas à 3 d'ailleurs. Enfin voilà, il y en a quand même... Ils ont quand même... Quand ils se lancent dans un truc, ils se lancent dans une série. Donc je me dis, peut-être que dans le prochain, on aura un peu plus de développement. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça va vite. Ça va très très vite.
Bah, en même temps, c'est tout à fait personnel, mais je rejoins un petit peu Antique là-dessus. Je trouve qu'il y a déjà effectivement toute une ribambelle de personnages et de références qui sont finalement pas ou peu utilisés ou mal utilisés. Donc quiconque, je suis d'accord avec toi, c'est pas le personnage le mieux utilisé. Il est drôle, il y a plein de choses rigolotes, il y a plein de références marrantes avec, mais finalement, bon, il y a une grande scène, mais c'est à peu près tout. C'est pas forcément l'idéal. Moi je trouve que 1h30 c'est bien, en fait. Je pense que 2h à ce rythme là, avec autant de références et autant de trucs, ça aurait été là l'overdose.
2h pour les gamins, c'est peut-être trop long.
C'est ça.
Il y a ça aussi.
Faut pas oublier que ce soit.
C'est quand même essentiellement un film pour enfants. Alors, c'est absolument pas un film pour enfants. J'ai vu absolument tout âge dans la salle.
Ah, mais c'était énorme.
De 7 à 77 ans.
C'est excellent, ça.
Dans la salle, il y avait effectivement beaucoup de monde. Et alors, ce qui était très fort, c'est... Moi, j'étais assise à côté, pas de gamins, mais d'un couple de trentenaires. Et tous les trucs un peu complètement barrés, typiquement le Luma dépressif, le mec à côté, il était mais pété de rire, alors que ça englobe tout le monde, mais même les mômes, ils étaient morts de rire, quoi. Tout le monde était mort de rire. Ça.
Oui, il y a eu plein de très bons moments où effectivement la salle rigolait de bon cœur et sans que ce soit forcé ni rien. J'avais peur que moi, dans une salle remplie de gamins, enfin avec beaucoup de gamins, ce soit un peu le bordel et qu'il y ait plein de trucs, mais en fait, non, les mômes, ils étaient. Voilà, j'aimerais qu'on reprenne un tout petit peu autour du film lui-même, parce que deux petits sujets dont je voudrais parler. Alors déjà, oui, voilà, merci beaucoup. La musique fout une banane de ouf, je trouve.
C'est-à-dire ouais, à part quand ils mettent des musiques années 80 ou genre I Need a Hero qui a été utilisé mais
oui,
des dizaines de
tellement
fois, j'en peux plus.
Surutilisé que c'est lourd, on est d'accord.
Je trouve que ça colle pas avec Mario, en fait. Pour moi, c'est vraiment hors sujet. Et ces moments-là, ça me sortait un peu du film.
Bah en fait, à part le Brooklyn de... Merde. Du début, mais je me souviens plus du nom du groupe. C'est pas grave. Qui lui était effectivement pas trop hors sujet, pas trop surutilisé, parce qu'on est effectivement à Brooklyn. Mm. Donc pourquoi pas. C'est vrai que le reste, je trouve que le catalogue, le back catalogue d'Universal en termes de musique est normalement suffisamment riche pour aller chercher des choses qui ne sont pas toujours le I Need a Hero. Je suis d'accord. Mais je parle de la musique originale composée pour le film qui, je trouve, est vraiment excellente il y a quelques moments.
Est-ce qu'on va parler du solo piano de...
Alors, il va falloir Bowser. En parler.
Il va falloir qu'on en parle, hein, quand
même. Il va falloir qu'on en parle, on est d'accord.
On n'avait pas conscience que Bowser pouvait être un si bon chanteur.
Bah non, justement, il est pas très bon, en fait.
Mais c'est ça qui est drôle, en fait.
C'est énorme.
Oui, mais non.
Oui, mais non. Mais enfin, ce qui est génial, c'est vraiment la enfin, tu vois la scène arriver, parce que bon, quand même... Le plan de Bowser, comme d'habitude, tient avec deux bouts de ficelle. En gros, Vitoff, il attaque le royaume champignon, mais pas pour anéantir la princesse Peach. Non, parce que il l'aime très très fort et qu'il veut l'épouser. Ok, admettons. Il est un peu con. Ouais,
c'est comme dans Paper Mario.
Voilà, dans Paper Mario, comme dans Galaxy aussi.
Oui, finalement, d'ailleurs, il reprend le costume.
Il reprend pas le costume de Galaxy, c'est pas tout à fait le même, puisqu'on a les amis de la maison. Je peux te dire qu'il n'y a pas de paillettes roses sur le.
C'est aussi le scénario d'Odyssée pour le coup.
Ouais.
Bon, c'est surtout le scénario de Super Paper Mario.
Ouais.
Et donc Bowser nous fait un solo de piano.
Donc, voilà, le solo de piano de Bowser, c'était. Enfin, tu sens la scène arriver, t'as tout le public qui est là en mode. Il va pas faire ça quand même. Et là, c'est le moment fou rire du film parce que vraiment tout le monde est pété de rire et en larmes en mode non, mais là on peut pas, enfin, c'est trop, stop, arrêtez s'il vous plaît.
Et donc le pire, c'est que Jack Black.
Ah ouais, non, mais lui il a fond.
Et risque d'être nominé aux Oscars pour comme meilleure chanson originale pour ça.
Voilà, c'est fait.
Incroyable.
Mais en plus, sur les tapis rouges où il présente le film, il joue le truc à fond. C'est-à-dire qu'il arrive toujours. Plus ou moins en cosplay, c'est-à-dire en gros son costard, je sais plus sur quelle cérémonie, il avait la carapace de Bowser et des flammes sur les manches. Enfin voilà, il est à fond dans le truc. Et alors faut juste voir le clip de Peaches,
la version originale,
c'est juste à mourir de rire tellement il fait n'importe quoi.
C'est dommage qu'on n'ait pas les clips avec la version française parce que moi cette chanson en français m'a fait hurler de rire aussi, je la trouve vraiment bien. Et pour le coup, le doubleur, il a pas à rougir de honte par rapport à Jack Black parce qu'il fait vraiment un super taf. Et du coup, comme ça en français, je trouve ça plus drôle puisque je comprends tout.
Alors, vous voyez, c'est vrai que la version originale est un peu. Voilà, mais faut qu'on parle un petit peu du doublage, notamment parce que alors, je ne l'ai vu en VF, je n'en ai vu qu'une toute petite partie en VO, donc ce qu'il y avait dans les trailers. Et en fait, il y a des petits morceaux que tu pouvais réécouter par-ci par-là parce qu'il y a pas mal d'extraits qui sont sortis. On a une excellente VF, je tiens à le dire.
Tout à fait.
De très bonne qualité, mais dans laquelle il manque Jack Black.
Ouais, mais...
Ouais, mais en fait, tu peux pas reprocher à un doubleur français de pas être Jack Black, en fait.
C'est compliqué à faire, tu vois.
C'est juste que Jack Black est excellent, mais le doubleur français, il est très bon aussi pour Bowser, et il fait un très très bon Bowser. Bah, en fait, surtout, moi, j'ai pas l'impression d'entendre... Enfin, moi, j'ai l'impression que le problème avec Jack Black, c'est que c'est surtout, on entend Jack Black plus que Bowser, et en français, j'ai Bowser, en fait. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir un... Et qu'en particulier, c'est juste un très bon Bowser.
C'est vrai que ça fait partie des problèmes des films d'animation, c'est quand effectivement tu vois l'acteur et pas le personnage, et ça, c'est
un peu
gênant.
Non, mais il est très bien, le doubleur français.
Mais le doubleur français est très bien, mais j'aurais bien aimé avoir une espèce de version hybride dans laquelle on aurait Jack Black pour Bowser et le reste en français, parce que le doubleur
après,
de Mario
est très
bon.
Après, ce que tu peux faire, c'est t'achètes le DVD, et dès que Bowser se met à parler, tu passes en anglais.
Mais c'est ça, une version hybride, tu sais, où qui zappe de langue à chaque fois que Bowser intervient.
Mais enfin, je suis d'accord avec Antix, la version française de Peaches est quand même drôle, parce que le Peachounette, c'est n'importe quoi. Et
avec ta petite frange à cœur.
C'est ça, voilà.
Alors, j'ai remarqué pour la première fois que la frange de Peach était à cœur quand il l'a dit. Ouais. En forme de cœur, parce que je n'avais jamais remarqué. Donc c'est extraordinaire. Voilà, on apprend des trucs. Voilà, bah écoutez, si... alors, je doute que les gens qui nous écoutent ne l'aient pas vu, parce que le film est un très grand succès commercial. Déjà, c'est le meilleur démarrage pour un film d'animation de tous les temps, pour le moment.
Un départ turbo, lol.
Oui, ben voilà, c'est un départ turbo. Et donc, voilà, si vous ne l'avez pas vu, je pense qu'on peut le conseiller à tout le monde. Alors évidemment, si vous n'êtes pas fan de Mario, je pense que vous allez vous faire chier, ça faut être clair. Spoiler up. on n'a pas spoilé l'histoire.
On n'a pas spoilé grand chose.
On a spoilé un gag éventuellement, mais.
Franchement, on n'a pas spoilé grand chose.
Mais allez le voir, c'est ça.
C'est pas comme si les moments malaisants de Bowser n'étaient pas dans les bandes annonces.
C'est ça.
Non, ils y sont pas justement.
Non, si, arrête. Il y en a quelques-uns déjà. Et après, enfin.
Le scénario, rien à spoiler.
Le scénario, rien à spoiler. Il n'y a pas de grosses révélations sur l'univers. Alors, moi, sincèrement, il y a un truc, enfin, quand je disais que, tu vois, le Luma dépressif, on l'a tous vu dans les bandes annonces, le seul moyen d'échapper à la mort, c'est la douce technique de la mort. Voilà. Donc là, franchement, c'est ça qui m'a fait aller voir le film, hein, clairement, parce que sinon, bon, tu te dis, ouais, encore un truc sur l'univers, enfin, c'est un truc sur l'univers de Mario, ça va être juste du fan service et ça va me saouler, mais en fait non, c'était très bien. Et clairement, j'aimerais bien, mais après encore une fois, hein, ce sera on verra. On fait un 2. On a eu des bribes de scénar entre les jeux vidéo, notamment Galaxy. On se dit que Harmony c'est la fille de ou machin. Ça pourrait être intéressant d'avoir des vraies connexions avec les jeux. Ce serait sympa. Voilà. Après, à voir.
Mais je sais pas si ce sera le cas. En tout cas, effectivement, ça parle de deux.
Ce que je voudrais rajouter pour le film, c'est... En gros, vous attendez pas un film d'animation avec une double lecture. On n'est pas devant un Pixar ou un Ghibli. Par contre, c'est une attraction. C'est-à-dire que si on m'avait dit que ça, c'était une attraction du Futuroscope, je l'aurais cru parce que... Effectivement, le film va très vite, s'arrête pas. Et du coup, tout ce qu'il propose est quand même assez chouette visuellement, avec beaucoup de trouvailles. Enfin, les bandes annonces, il y a une petite partie de Mario Kart qui est vraiment très très bien. Et vraiment, tout le film est un peu dans cet esprit-là, très Space Mountain, quoi.
C'est ça. Je ne dirais pas que c'est un bon film. Je dirais que c'est un très bon divertissement. Et ouais, effectivement, d'autant plus si tu es fan de Mario, où là, tu vas vraiment, encore une fois,
le film y met la banane. Je pense que c'est un bon film, honnêtement. Après, il a l'exercice casse-gueule de faire un film avec l'univers de Mario, qui est un pur univers de jeux vidéo. Et moi, c'est vrai que le moment, quand il t'explique comment ça fonctionne, les power-up,
c'est extrêmement...
Ah ouais, effectivement, ça marche pas.
C'est ça, ça ne fonctionne pas. Il y a plein de trucs très drôles comme
c'est,
ça.
C'est pas mal, et puis même pour introduire les mômes, en fait, parce que la... Enfin... Je pense que la majeure partie des gamins qui étaient dans la salle connaissent Mario avec les jeux vidéo, etc. Mais si t'as un gamin qui est pas intéressé par l'univers de Mario et que t'as envie de l'introduire à l'univers de Mario, il y a quand même des super trucs et je pense que tu peux ressortir de là en disant il y a un jeu de course, ah bon, il y a un jeu de combat, etc.
On a vu la pub juste avant le film, tu avais la pub sur les 4 Mario sur Switch juste avant la projection, quoi. Les mecs se sont
vraiment
pas fait chier.
Vraiment.
Vraiment. Je pense qu'elle a été faite spécialement pour le cinéma parce qu'effectivement, c'est vraiment retrouver tout l'univers de Mario sur Nintendo Switch.
C'est le jeu. Si tu veux, je peux te raconter l'anecdote de j'ai été voir Kiki la petite sorcière un soir très tard, genre à 22h, et globalement, les bandes annonces que t'as avant le film et les pubs, c'est orienté gamin. Et tu dis, bah non, en fait,
c'est la séance de 22h.
Ouais, mais déjà, c'est la séance de 22h. En plus, bon, bah oui, le film, ça m'intéressait pas des masses. Et puis, globalement, on est sur un Miyazaki. Alors, ok, c'est un dessin animé, ok, c'est un univers un peu gentillet, parce que ça reste Kiki la petite sorcière, c'est pas non plus le plus hardcore des Miyazaki, mais quand même, on n'est pas dans le dessin animé pour enfants pour autant. Bref, donc, mais c'est le jeu.
Mais c'est le jeu. Je vous propose de faire une seconde pause musicale. On va s'écouter un autre morceau de la bande originale de Signali. Le jeu, c'est toujours composé par les mêmes gens, et le morceau s'appelle Mina. On va dire au revoir à Muse.
Au revoir Muse.
À bientôt, merci.
Voilà. Salut.
Attends, mais te barre pas tout de suite, parce qu'après, faut recettre le bordel. Lance ta merde là, vas-y, fais ton truc.
Ta gueule et mets tes tristes, comment.
Quoi déjà ?
T'as un photo.
Non, pas tout de suite, pardon.
C'est le décalage horaire.
C'est ça.
Il y a un décalage horaire entre les deux sièges. Donc voilà, on se retrouve dans un tout petit peu plus de 2 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour. C'est de plus en plus flippant, là, l'Australie, mais c'est pas grave. Petit coucou à Kerbix, qui effectivement fait juste un petit tour. Nous allons donc parler du Resurvival. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut parler de ces jeux indés qui remettent, finalement, qui dépoussièrent un petit peu la formule du Survival Horror telle qu'on l'a connue à la fin des années 90. Alors, je vous refais un petit peu le pitch, hein. Le Survival Horror, le prototype du Survival Horror de la fin des années 90, c'est Resident Evil. C'est donc un mélange entre un jeu d'exploration, parce qu'évidemment, bah, faut avancer, t'es dans un manoir, slash d'autres trucs dans Resident Evil, évidemment, mais voilà. C'est un mélange entre un jeu d'exploration, un point and click, parce qu'il y a des énigmes, et un jeu d'action, parce qu'il faut buter des trucs qui font peur. En gros, c'est à peu près ça. Donc le prototype, c'était les prototypes, c'était Sweet Home, par exemple, de Capcom, hein, qui était plus une espèce de jeu d'exploration avec les combats qui étaient façon RPG, donc un peu bizarre, on va dire. Alone in the Dark, qui dit bah ok, je fais du point and click, mais en 3D et avec de temps en temps des séquences d'action qui malheureusement sont un peu en dessous. Et finalement, voilà. Resident Evil a trouvé le bon équilibre, je dirais, entre exploration, énigme, combat. Même si les combats, bon.
Resident Evil, ils sont arrivés, ils ont dit mettez du nanar là-dedans, et puis c'est passé nickel.
À l'époque, ça passait. Du coup, le succès de Resident Evil a donné quand même lieu à déjà tout un tas de suites de Resident Evil lui-même, puisque Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Code Veronica, même si à chaque fois il y a des petits changements, et Silent Hill. Malgré tout, est un enfant de Resident Evil.
Ah, mais carrément, Konami, ils ont dit à la Team Silent, faites Resident Evil là, Capcom, ça a l'air de vendre des trucs, faites ça. Mais vraiment,
ça vend des camions, ça, quoi. Je rappelle, Resident Evil est un des succès surprises de la PlayStation. C'est un jeu que personne n'attendait, y compris Capcom, et qui a été un succès absolument phénoménal. Donc voilà, Capcom sortira lui-même Dino Crisis quelques mois plus tard, qui est alors toujours pareil, c'est du survival horror mais avec des dinosaures parce que Jurassic Park est encore là, donc on peut y aller.
Nous, on appelle ça un mardi.
C'est exactement ça.
Je crois que dans la foulée, il y avait aussi ce jeu PS1 qui était sorti qui s'appelait Fear Effect.
Fear Effect aussi. Tout à fait. On peut aussi, parce que mine de rien, du côté de Square Enix, il y a Parasitive. Alors même si c'est un habillage extrêmement. C'est plus un habillage RPG, tu restes quand même avec des mécaniques qui commencent à ressembler vaguement à du Survival Horror.
Le 2 plus que le 1 d'ailleurs, puisqu'il y a t'as vraiment les contrôles tank de Resident Evil dans Parasite F2.
D'accord, ça je ne savais pas. Tiens,
et le même genre de scénario bullshit à base de parasites qui contrôlent la population et font de l'héroïne un être surpuissant parce qu'elle est infectée ou une connerie comme ça.
Oui, c'est ça. De toute façon, le scénario bullshit, j'ai l'impression que c'est vendu avec.
Dans le 1, il est valable, le scénario. Hein.
De parasitif, tu veux dire?
Ouais, sur un malentendu, ça passe.
Donc, c'est ça. Si tu fermes les yeux et que en plissant les yeux, ça passe.
Non, en vrai, c'est pas con du tout. C'est plus intelligent qu'un virus à la con qui fait des zombies.
C'est vrai. Il y a Clock Tower, alors premier épisode sur Super NES, probablement un peu avant Resident Evil, mais qui n'a pas tout à fait finalement encore complètement les codes. On est vraiment plus dans le point and click en réalité. Que
oui,
véritablement
c'est plus point and click avec des séquences scriptées de combat qui filaient les foies d'ailleurs.
Tout à fait.
Le méchant avec les grands ciseaux.
Oui, exactement.
Oui, qui donnera, ça.
Ça me foutait la trouille, ça.
C'est ça. Qui donnera sur PlayStation 1, je crois, Clock Tower 2, puis Clock Tower 3 sur PS2. Donc c'est un jeu qui finalement c'est les mecs ont vu qu'ils avaient un univers qui marchait pas trop mal, mais un jeu qui marchait pas terrible, donc ils ont dit on reprend Resident Evil et puis on fait ça, mais avec notre univers. C'est vraiment ça. On peut penser à Fatal Frame, on peut penser à Siren, on peut penser à Hunting Ground.
Hunting Ground, ouais.
Hunting Ground.
Qui est un truc qui est super de niche.
Oui, alors lui, il y a un chien, donc c'est de niche.
Oh,
joli.
Elle est valide.
Elle est valide. Et la formule marche bien, mais ça s'essouffle un petit peu au milieu des années 2000, et finalement Resident Evil 4 va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Et couper ça en deux, c'est-à-dire que tu vas vraiment avoir ceux qui vont se diriger vers l'action.
Ouais.
Alors je pense à Silent Hill Homecoming, Silent Hill 4, je suis pas sûr.
Silent Hill 4, il était encore de la vieille école.
Silent Hill 4, ouais.
Même s'il se modernisait, c'était encore un peu
vieille école.
School.
Mais finalement, voilà, tu vas avoir une espèce de scission entre ceux qui vont faire plus action. Je pense à Dead Space, je pense à Callisto Protocol, mais on a dit que c'était le remake de Dead Space.
Alone in the Dark aussi, qui a fini par, par faire ça, ça, quoi.
Alone in the Dark sur Wii, sur PS3, sur 360. Voilà, donc Dead Space. Et puis ceux qui sont effectivement beaucoup plus partis du côté, j'allais dire, presque Walking Simulator dans certains cas. Mais beaucoup plus du côté narratif, finalement point and click, exploration.
Du côté Silent Hill de la Force, globalement.
Oui, un petit peu, mais moi j'aurais dit presque du côté Alone in the Dark original, hein, parce que Amnesia.
Ouh, ah oui, c'est vrai que... Ouais.
Quasiment pas de combat. Shattered Memories, on est presque dans du Walking Simulator, même si...
Complètement.
C'est un petit peu, voilà. Je pense aux jeux de type Until Dawn, The Quarry, des choses comme ça, qui sont... Là, on est vraiment dans du... C'est du FMV, donc on est... Pas du ouais, FMV, parce que c'est...
Interactive.
C'est ça, on est dans l'histoire interactive, donc on est vraiment plus... On est clairement basculé dans le point and click, quoi. Il y a plus ou très peu d'action, et on est vraiment dans le... amener des trucs à un endroit, résoudre une énigme, etc., etc. Donc il y a eu une espèce de schisme, finalement, qui fait que bah, les vrais R-like pur jus ont quasiment disparu à la fin des années 2000. Et... Ben, il se trouve que c'est rigolo parce qu'on voit le truc revenir progressivement.
Voilà. Il y a un revival.
Il y a eu un revival de ça. Et on va en parler à travers alors, plusieurs jeux. On en a été deux en particulier qui étaient des indés, mais effectivement, il va falloir qu'on parle d'autres trucs. Je pense notamment au remake de Resident Evil 2 et 3. Alors peut-être un peu moins 4. Je suis pas...
4, non, le 4, pour le coup, ressemble vraiment à Resident Evil 4. Pour attester la démo... tu peux mettre des headshots et des coups de pied comme dans l'original, alors que dans Resident Evil 2 t'es en train de galérer à compter tes munitions.
Ouais, c'est ça.
Voilà, donc on est d'accord. Alors Resident Evil 2 change quand même un petit peu la donne, puisque finalement c'est donc le remake du Resident Evil 2 de 98, c'est ça, 99 sur N64, 98 sur PS1, et reprend le RE Engine, le fameux El Famoso,
qui vraiment fait vraiment des merveilles, hein.
Ça, c'est clair.
C'est absolument incroyable comme moteur.
Et finalement, on reprend un peu la même histoire, presque, parce qu'il y a quand même des gros bouts de supprimés, des gros bouts de rajoutés, si je me rappelle bien, surtout dans le 2 d'ailleurs.
Je crois que... alors c'est le 3 qui a des grosses coupures, le 2 je saurais pas te dire.
Le 2 c'est plus ou moins... Alors t'as des petits ajouts par-ci par-là pour la fin, notamment.
T'as mais... Monsieur X qui apparaît dès ta première partie, notamment.
Oui, c'est cool,
pas le cas dans l'original.
Il apparaît genre deux fois, mais là vraiment il est un peu Nemesis-like. Vraiment, il te poursuit très longtemps tout le long du jeu. Hein, quasiment.
Ah bah c'est la star du show, hein, Monsieur X. Oui. Une fois qu'il est plus dans le jeu, tu t'emmerdes. Hein.
C'est ça.
Mais ça reprend surtout exactement le même genre de mécanique qu'un Resident Evil, c'est-à-dire oui, tu te balades, c'est un jeu d'exploration, c'est un jeu d'action, parce que bah oui, tu es meilleur jeu d'action que ne l'était RE2 à l'époque, parce que effectivement là t'es à la troisième personne, tu peux viser correctement, t'es un peu plus oppressé par les ennemis parce que finalement tu t'es très proche du personnage, la caméra se rapproche façon Resident Evil 4 quand tu pointes ton gun. Donc ça donne un aspect plus viscéral, finalement, les combats sont plus travaillés.
Les ennemis sont un petit peu plus des sacs à PV, du coup tu dois compter tes munitions et tout ça. Le RE2 remake a réussi vraiment à rejoindre en fait le grand écart entre les Resident Evil old school, vraiment rival, où l'action est pas tant fou que ça, et RE4, justement, en dynamisant un petit peu. Ce qui est très fort quand même, c'est qu'ils ont réussi à remettre au bout du jour des mécaniques qui étaient assez désuètes. Et je pense que ça a dû contribuer à ce revival, le survival.
Bah, en fait, le 2, pour l'avoir fait, et l'avoir fait deux fois, tu as les mécaniques de gestion d'inventaire, de, comme disait Jean, d'avoir des difficultés à avancer, des mecs qui sont les sacs à PV en face, donc en fait, t'as presque plus intérêt
à
les esquiver en leur pétant les jambes. Et surtout, l'imbirantique, t'as vraiment ce côté de trouver des objets, savoir où ils se mettent, faire des allers-retours. Vraiment, la navigation dans cet épisode, elle est assez incroyable. Je me suis souvent retrouvé à ouvrir la carte pour voir où je devais aller, repérer le chemin et le faire à toute vitesse. Parce que souvent, j'ai Mister X qui me colle au basque aussi, ce petit connard.
Culé, pute. Grand connard.
La façon dont j'ai vécu le remake de Resident Evil 2, et je sais pas si ça correspond à ce que ressentait quelqu'un qui jouait à l'époque, parce que moi je l'ai pas fait. Globalement, c'est tu trouves une salle de sauvegarde, tu sauvegardes, donc tu sais que t'es à l'abri. Et en gros, tu as préparé ta sortie pour aller plus rapidement possible au point où tu veux aller en perdant le moins de temps pour éviter de gâcher des munitions, des ressources ou perdre de la vie. En essayant d'esquiver au maximum. Et je trouve que ce côté vraiment et survie et horreur, il marche très bien dans ce remake parce que t'es vraiment oppressé et tu dois aussi faire attention à comment tu gères ton inventaire. Enfin, c'est surtout vrai dans le commissariat, c'est beaucoup moins vrai dans les égouts et le laboratoire.
Il y a un côté urgence aussi qui marche bien finalement. Le fait d'être poursuivi par cet adversaire invincible, ça fonctionne bien et ça ajoute un petit peu au truc de effectivement tu prépares ton escapade jusqu'à la prochaine salle de sauvegarde où tu seras safe.
Ils ont gardé le principe du rouleau ancreur qui limite ton nombre de sauvegardes.
Oui.
Que dans un certain mode de difficulté.
Oui, c'est ça, c'est dans le mode de difficulté le plus élevé, je crois. Mais alors, je te confirme pour les joueurs de l'époque, hein, de Resident Evil, parce que moi j'ai joué à Resident Evil sur PS1 quand j'étais petit chez un pote. Tu avais le même genre de sensation dans lequel tu te disais, bon, ok, ça y est, je suis dans une salle de sauvegarde, je suis safe, je vais au coffre, je prends le minimum dont j'ai besoin et je vais là. Et c'est le moins de détours possible, le moins de machin, en espérant pas avoir de mauvaises surprises. Et on était vraiment, vraiment tout à fait dans cet état d'esprit. Voilà, et du coup, donc RE2 marche très bien, RE3 marche très bien, et je sais pas si c'est ça qui l'a lancé, parce que je sais qu'il y en a eu quelques-uns qui sont arrivés un peu avant, il y a des indés qui avaient déjà retrouvé un petit peu ce chemin-là, mais je voudrais qu'on parle de deux jeux indés en particulier. Alors un qui tient beaucoup à monsieur Jean Fulgence, ici présent, qui a kiffé sa race, je pense qu'on peut le dire.
Tout à fait. Ça trouve le cul.
Ça trouve le cul. Et un autre que moi je trouve intéressant, même si l'exécution est un peu, on va dire... Ça a repris tous les défauts des Resident Evil d'origine, y compris le scénario en carton et les doublages de qualité. Non, mais c'est des trucs où tu le vois venir à 10 km, enfin bref. Je vais parler de essayer d'orienter ça vers deux ou trois indés, parce qu'il y a aussi Observo, même si Observo est un petit peu différent. Bon, bref, c'est pas très grave. Mais finalement, on a remis au centre de la carte ce gameplay un peu choral dans lequel, oui, tu vas aller mélanger de l'exploration, du point and click, de l'action, et t'essaies de faire un truc qui tient la route. Le pari d'un Tormented Souls, c'est de refaire vraiment un Resident Evil-like avec des caméras fixes, avec un personnage avec des contrôles. Alors on n'est pas obligé de les avoir en tank, t'as quand même une option pour ne pas l'avoir, je crois que c'est le cas par défaut. Ou alors c'est genre quand tu joues au stick, c'est en vue relative, et puis quand tu joues avec la croix, c'est les contrôles tank, donc tu as les deux en même temps, ce qui peut être pratique. Plutôt sympa, mais de prendre ce pari de voilà de mettre très peu de munitions, de mettre des ennemis relativement costauds, de mettre des énigmes assez absconses, je sais pas comment on dit, bref, des énigmes assez tordues, et surtout de retrouver ce truc là, c'est-à-dire tu as un nombre de sauvegardes limité, quoi qu'il arrive, tu peux pas en faire 150, donc tu peux pas te dire je vais dans cette pièce là, je récupère ça, je refais une sauvegarde, je suis tranquille. Non, tu dois compter tes sauvegardes. Du coup, et les sauvegardes sont hyper rares, c'est pas une blague, je pense qu'il doit y avoir genre peut-être une douzaine de sauvegardes au total sur l'ensemble du jeu. Pas de points de sauvegarde, hein, de ruban encreur.
Ah ouais, quand même.
Donc c'est un peu chaud les marrons, quoi, je veux dire, tu l'utilises vraiment pas n'importe quand. Et qui va essayer finalement d'exploiter au maximum les trucs à la con, genre la peur du noir, la peur d'être poursuivi. Ce qui se passe dans un hôpital psychiatrique, je mets des guillemets, c'est un manoir façon Resident Evil qui a été reconverti en hôpital psychiatrique. Messieurs, si un jour vous devez ouvrir un hôpital, voilà, si vous devez ouvrir un hôpital psychiatrique, ne l'ouvrez pas dans un ancien manoir qui est construit sur un cimetière indien. Ne faites pas ça, voilà, ça n'a pas de sens. Donc voilà, avec une petite particularité pour Tormented Souls par rapport à Resident Evil, il n'y a pas de carte. Ça.
Ah ouais, donc tu dois vraiment retenir, quoi.
Alors, la navigation est pas si compliquée que ça, en fait, tu retiens assez rapidement le truc, le flux du jeu est assez naturel, je sais pas comment les mecs ont fait, mais tu arrives à te repérer, les pièces sont toutes extrêmement reconnaissables, je pense que c'est surtout ça qui marche, t'as pas 150 chemins pour aller d'un point A à un point B, mais imaginez faire Resident Evil le premier sans carte.
Oh non.
C'est chaud patate, quand même. Et il y a une deuxième petite particularité rigolote qui fait que je trouve que le jeu s'en sort pas trop mal là-dessus, c'est que si tu te retrouves dans le noir, quelle que soit la raison pour laquelle tu te retrouves dans le noir, c'est-à-dire la lumière coupe, le... n'importe quoi, voilà, tu vas dans le noir, tu meurs. Donc, tu ne peux pas être dans une pièce qui n'est pas éclairée.
C'est instant ou t'as une barre de vie qui descend ?
T'as genre des crépitements sur l'écran, tu sais, façon parasitage de télé, quand il y avait encore la télé analogique.
Ouais, Eternal Darkness. Ouais.
C'est ça, voilà. C'est comme ça. Donc là, tu sais que t'es dans le noir et que ça craint. Et autre petite particularité, ça a été repris de Doom 3, hein, donc... tu ne peux pas avoir ta lampe torche allumée qui te permet donc de ne pas mourir dans le noir et ton arme. En même temps, pas possible. C'est soit l'arme, soit la lampe.
Il tient la caméra.
C'est ça. Alors non, en l'occurrence, il tient pas la caméra, parce que c'est une caméra fixe, mais... Donc vous voyez, c'est typiquement le genre d'expérience qui n'aurait pas dénoté à la fin des années 90. Tu sortais un jeu comme ça, bah, passait comme une lettre à la poste, quoi. Je veux dire, il était vraiment... T'es complètement dans ce jeu-là. Et tu n'as pas de... Enfin, ce jeu aurait pu sortir il y a 20 ans, il ne dénotait pas, il est juste plus joli aujourd'hui, peut-être un peu mieux designé pour sur certains trucs, mais voilà, des énigmes à la con, comment dire, un principe un peu plus hardcore, je dirais, qu'un Resident Evil sur certains trucs, notamment le fait de pas se retrouver dans le noir, il y a des fois où c'est vraiment un handicap. C'est-à-dire qu'il y a des pièces qui sont dans le noir avec un ennemi, du coup, quand tu rentres, bah, tu peux pas prendre une arme pour buter l'ennemi. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Bah, tu peux essayer d'allumer une lampe, une bougie, un machin pour pas te retrouver dans le noir, et puis après changer pour prendre ton fusil. Enfin, tu vois, c'est tout des mécaniques comme ça. Et du coup, je dirais pas que c'est un bon jeu, mais si vous avez une espèce de... Si vous vous faites un petit trip nostalgique Resident Evil à un moment, ou Silent Hill, bah, je dirais que c'est un des jeux à aller regarder parce que il y a vraiment quelque chose, quoi. Et en plus, tout se passe, t'as vraiment une unité de lieu, absolument tout se passe dans l'hôpital psychiatrique slash manoir slash truc bizarre.
Antichambre des enfers.
Antichambre des enfers. Donc absolument tout se passe là-dedans, contrairement à Resident Evil, où en fait l'unité de lieu, elle est un peu... Parce que t'as le manoir, puis ensuite t'as la maison du gardien, puis après t'as le laboratoire, puis après...
Ouais, il y a un twist.
Il y a un petit twist. RE2, c'est pareil, hein, finalement, le commissariat, même si c'est le truc le plus connu, où tu passes presque la moitié du jeu.
C'est un manoir-like. Hein.
C'est un manoir-like. Dans le remake, je crois que c'est pareil aussi. D'ailleurs, tu as le commissariat, puis les égouts, puis le labo.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Donc ils ont zappé, il y a un morceau qu'ils ont... Les rues ont dû être zappées.
Tu les as un peu au début. Je crois que c'est le début, les rues, non ?
Non, je crois que t'as un repassage dans les rues à un moment. Je suis pas sûr. J'ai un souvenir assez
Je sais que RE3, du coup, le remake, faisait... Alors, zappait le beffroi complètement.
Zappait le beffroi, ouais, mais honnêtement, c'était pas la meilleure partie du jeu.
Bah, c'est dommage, la musique était sympa.
Dans le remake de RE2, t'as une course-poursuite dans les rues, juste à la sortie du commissariat et les égouts.
Ah, d'accord. Okay.
Donc t'as quand même un truc, d'accord. J'avais pas, je l'ai pas fait le remake, hein, donc je peux pas dire. Mais voilà, donc je trouve que Tormented Souls, il ne dénote pas. Il est vraiment exactement dans cet état d'esprit là. Et je trouve ça intéressant de refaire un jeu aujourd'hui avec exactement ces principes là, où tu te retrouves avec voilà, c'est le perso, les contrôles tank, énigme à la con, une arme, sauvegarde limitée. Si t'es dans le noir, tu meurs. Vas-y, démerde-toi.
Mais c'est là que tu vois que ces trucs-là, finalement, ont pas vieilli. C'est toujours marrant, un jeu qui utilise ça, alors que pourtant, c'est peut-être passé de mode.
C'est passé de mode, alors peut-être parce que c'était trop difficile. Peut-être qu'aussi, il y a une... Je vais dire un truc que je vais regretter. Peut-être que, finalement, la Dark Soulisation, dont on a beaucoup parlé, ça a aidé aussi les gens à se rendre compte que, bah, en fait, un jeu difficile, c'était pas forcément grave.
Et c'est pas tant que c'est difficile, c'est que c'est des jeux, en fait, où tu n'es pas... T'as pas un personnage qui est surpuissant, en fait, tu te sens vulnérable. Et c'est effectivement peut-être que Dark Souls, vu que effectivement tu te sens quand même vulnérable dans pas mal de situations dans ce jeu-là, peut-être qu'effectivement la montée en force de Dark Souls a fait apprécier ce genre de jeu où tu n'es pas... Alors, t'es quand même un guerrier dans Dark Souls, mais voilà, tu n'es pas surpuissant, et surtout tu ne peux pas... Même si t'es un pro player de la manette, tu pourras pas affronter complètement de front tout ce qui t'arrive. Quoi.
Tu peux pas brute force le jeu, quoi.
C'est ça.
C'est ça. Mais ce que je disais, hein, tu vois, le fait de dire dans le noir tu meurs, ça veut dire que tu peux effectivement pas brute force le jeu. T'enlèves ta lampe, tu prends ton fusil, tu meurs. Point. Donc tu peux pas aller brute force le truc. T'es obligé d'aller trouver la solution pour éclairer la pièce, buter l'ennemi, prendre ce que t'as à prendre. C'est typiquement ce genre de truc où effectivement tu ne peux pas jouer contre le jeu. Et je pense que dans les Resident Evil, t'avais, et dans les Silent Hill aussi, t'avais très cet état d'esprit-là où t'es obligé de faire tel que le jeu veut que tu fasses. Tu peux difficilement tricher, tu peux difficilement brute-forcer le truc. J'ai l'impression que les RE2 Remake et RE3 Remake, t'as un peu le même genre d'état d'esprit où ah, tu peux pas juste aller tailler à travers les ennemis, machin, non, t'es ici.
RE3 Remake moins déjà.
Bah, RE3 d'origine, c'est déjà un peu plus orienté action. Donc
c'est plus bourrin, ouais.
C'est un peu plus bourrin. Et donc le second jeu dont on voulait parler, qui est parfaitement dans cette veine aussi, c'est Signalis.
Ça trouve le cul. Voilà.
Ça trouve le cul. Voilà, oui, non, mais jouez-y. C'est
allez,
bien
ta gueule est lancée Tetris.
Voilà, on peut conclure l'émission comme ça, c'est très bien.
Non, voilà, du coup, donc, Signalis est vachement plus dans le côté Silent Hill de la force. C'est-à-dire vraiment le plus qu'un survival, il va surtout te raconter une histoire avant tout, une histoire qui est assez assez obscure au départ, mais qui s'éclaircit petit à petit. Après, le jeu ne renie pas son héritage de Resident Evil, c'est-à-dire qu'il y a des mémos, il y a des énigmes, enfin il y en avait aussi dans Silent Hill, tu veux me dire. Mais le système de combat, c'est peu ou prou le même.
Un petit détail près quand même. Alors. Je me permets un petit rappel historique que les gens ont souvent oublié. Quand Resident Evil sort au Japon, il y a une visée automatique. C'est-à-dire que tu appuies sur R1, le personnage braque son fusil slash pistolet vers le zombie le plus proche, tu appuies sur X, il tire. Quand Resident Evil sort aux États-Unis, la première version, il n'y a pas de visée automatique. C'est-à-dire que tu es obligé d'aller tourner le personnage avec les touches gauche et droite pour viser le mieux possible l'ennemi. Donc tu peux te louper. Tu peux tirer complètement dans le mur. Il n'y a pas de visée automatique du tout. Ça fait une grosse différence.
Je savais pas ça.
Et ben, c'est sur les versions occidentales parce que, tu sais, à l'époque, c'était le... Enfin, les Japonais étaient, voulaient lutter contre le marché de la location. Donc les jeux avaient tendance à être beaucoup plus durs en Europe. Enfin, en Europe, aux États-Unis, donc en Occident, qu'au Japon. Quand il sortira la version Director's Cut, 8 ou 10 mois plus tard, tu as les contrôles de la version japonaise, donc tu as de nouveau la visée automatique, mais la bande originale a été complètement changée pour un truc dégueulasse, ça aussi vous avez peut-être entendu parler, mais la bande originale de Resident Evil Director's Cut, elle est ignoble.
Oui, ça, oui, j'ai constaté aussi.
Ça, donc il n'y a pas de version parfaite de Resident Evil sur PS1, en fait, il y a une version, il y a deux versions très imparfaites. Je reviens là-dessus parce que sur Signalis, tu n'as pas de visée automatique non plus. Ça reprend une espèce de logique de twin-stick shooter que je trouve pas idiote du tout pour le genre.
Alors, c'est un petit peu maladroit quand il commence à y avoir beaucoup d'ennemis. Après, c'est peut-être aussi voulu. Mais ouais, ça marche plutôt bien, en fait. T'as une espèce de visée laser à la RE4, pour le coup. Et en fait, t'as une autre mécanique qui est assez rigolote, c'est-à-dire que quand tu lock un ennemi, quand t'arrives sur un ennemi et que ça le lock, plus tu restes dessus, et du coup le réticule du visé se rétrécit sur lui, plus tu fais un bon tir, on va dire. Donc du coup, les ennemis de base, par exemple, les petits androïdes sympatoches qui veulent te tailler la gueule à coups de couteau...
Sympathique, donc.
Sympathique, oui. Ils prennent genre 3-4 balles si tu ne vises pas. Et si tu prends ton temps de viser bien et tout ça, tu peux les tuer, enfin tu peux les mettre à terre en deux coups, par exemple. Donc économie de balles.
Et donc ça t'oblige à être plus prudent, à prendre du recul, à être plus préparé.
À anticiper aussi les combats que tu vas venir. Donc tu vas pas faire ça par exemple dans une pièce où il y a trois personnes, tu vas peut-être plus y aller bourrin, fusil à pompe, etc. Mais quand t'as une pièce où il y a un ennemi tout seul, il te fait chier pour choper un truc, effectivement. T'as le choix de soit esquiver, soit tu le vises très bien et tu lui décoches une première balle qui sera de toute façon que t'as le temps de placer. Et ensuite une deuxième, le temps que l'ennemi se rende compte et se dirige vers toi, tu peux le mettre KO facilement.
Et ensuite il faut l'achever.
Ça c'est un héritage de Silent Hill pour le coup, piétiner les ennemis.
Ah, j'aurais dit Resident Evil Remake aussi, où il fallait souvent...
C'est venu avec Silent Hill. Oui,
c'est ça que c'est comme ça que ça fonctionne.
Voilà, c'est un truc de Silent Hill 1 et de tous, je crois que tous ils ont repris ça. De quand tu mets les ennemis à terre, alors tu peux continuer à leur tirer dessus. Seulement, c'est quand même plus avantageux de les rouer de coups jusqu'à ce qu'ils crèvent. C'est sourasse.
Mais du coup, Jean, dis-moi, comment fonctionnent les énigmes dans ce jeu et le déroulement de l'histoire?
Elles sont trop cool.
Qu'est-ce que ça raconte-t-il, donc?
Alors, ça se passe dans une espèce de dystopie cyberpunk du turfu, mais avec des télécathodiques.
Et où on parle allemand.
Et où on parle allemand, parce que le jeu est fait par deux Allemands.
Vrai ?
Oui.
Hansel et Gretel.
C'est leur nom, c'est leur nom. Donc Rosenshine, qui sont deux Allemands, alors j'ai oublié leur nom civil. Mais oui, deux Allemands qui ont développé ça pendant 8 ans. Donc les gars, quand même, bien joué. Et surtout, c'est un jeu qui est, pour un jeu indé, petit budget, tout ça, qui est quand même très 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 bien fini.
C'est-à-dire que 8 ans, t'as le temps de faire les finitions, mais ça fait plaisir quand même.
Ça fait plaisir d'avoir une expérience qui se tient de bout en bout, qui a quelques légers défauts, vraiment mineurs, c'est vraiment du pinaillage, quoi. Et donc, du coup, ça se passe dans une espèce de dystopie URSSienne, avec, du coup, des êtres humains normaux, qui sont appelés des Gestalt, et, du coup, des réplicas, qui sont des androïdes, mais qui
attends,
sont...
Attends, c'est Nier ?
Ouais, ouais.
Non, c'est pas Nier. C'est pas Nier Gestalt. Et en tout cas, tu as les réplicas qui sont des androïdes, mais qui sont créés, en fait, leur mécanisme de pensée sont créés à partir de ce qu'ils appellent les schémas neuronaux d'un vrai humain. Et on va se rendre compte, en fait, les mecs font ça avec une technologie qu'ils comprennent à peine et qui a une grande influence dans le reste de l'intrigue. Et les mecs font ça et vont se rendre compte qu'en fait, ça fout bien grave la merde. C'est-à-dire qu'en fait, en copiant les schémas neuronaux du coup d'un vrai être humain, les androïdes se sont rendus compte qu'au bout d'un moment, ils faisaient des rêves de leur vie d'humain qu'ils n'ont jamais connu. Du coup, des rêves où ils ont un autre nom, des autres souvenirs, une autre vie, etc. Et ça les rend tous un peu maboules. Et c'est pour ça que vous devez les buter.
Et donc on explore une espèce. Alors t'as aussi un petit peu j'ai la sensation d'une espèce d'exploration spatiale. C'est-à-dire finalement tu vas établir une espèce de colonie minière.
Alors il y a des programmes de spatiaux où tu t'envoies le plus loin possible pour essayer de trouver des ressources, des planètes à coloniser, etc. Et d'ailleurs il y a un twist assez marrant à la fin du jeu avec ça. C'est une civilisation qui connaît le voyage spatial, c'est-à-dire que le monde vraiment il est établi. Alors t'as la planète, t'as Heimat, du coup,
c'est
le foyer, voilà. C'est plus ou moins la Terre, voilà, foyer de la rébellion, parce qu'il y a un empire, il y avait un empire avant et il y a une rébellion maintenant, et en fait on se rend compte, ça me fait beaucoup penser à l'URSS, hein, c'est vraiment ça, c'est genre t'as l'empire d'avant, le tsar, tout ça, qui a été renversé par une rébellion, et la rébellion s'est mal passée, et du coup c'est la merde. Et oui, du coup, tu as vraiment le voyage spatial. Alors, tu apprends qu'à telle planète, il y avait eu des conflits et tout ça entre les forces armées de l'Imperium et la Rébellion. Et voilà, tout se passe, en fait, l'univers, tout se passe dans un système solaire où les gens peuvent voyager d'une planète à l'autre sans trop de soucis, apparemment. Et l'histoire, du coup, tu incarnes une Elster, donc un type d'androïde, qui est dit pionnier. Qui sont les androïdes du coup envoyés dans les programmes spatiaux justement, parce qu'ils sont très résistants, très survivalistes, etc. Et tu. Alors ton personnage, le jeu commence avec un réveille-toi, et du coup ton personnage sort de son pod de cryogénisation et tout ça. Et via des flashbacks et tout ça, parce que ta mémoire. C'est encore cette histoire de schéma neuronaux, ta mémoire est un peu brouillée.
C'est un peu le bordel. Ouais.
Tu récupères des bribes par-ci, par-là.
T'es amnésique et les animaux de la forêt sont devenus fous. Non, attendez, c'est pas
tout à fait. Et à un moment, du coup, tu te dis, attends, tu te rappelles d'un truc et tu te retrouves dans un complexe, une espèce de complexe minier. Et tu te dis, je dois la retrouver. Tu sais que tu dois retrouver quelqu'un et tu vas la retrouver. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que déjà la personne que tu cherchais c'est pas celle que tu pensais, t'as des petites confusions en fait sur ton personnage principal qui pense chercher quelqu'un mais en fait c'est quelqu'un d'autre par exemple, et tu te rends compte aussi que la base minière et les androïdes qui sont dedans sont un petit peu dans un jour sans fin, c'est à dire qu'ils se rendent compte que les mecs font des rapports, etc. Ils se rendent compte que c'est toujours le même jour, toujours la même date. Ils se disent, mais putain, pourquoi j'ai mis le même jour sur mon rapport ? C'est bizarre, ils sont en train de me rendre ma boule, etc. Oula,
d'accord. J'en suis pas arrivé là, moi, encore, mais c'est vrai que c'était chelou.
Il y a une référence au roi jaune. Enfin, une référence. C'est complètement évoqué en tant que...
trucs un petit peu à savoir. Roi Jaune, qui est un livre de je ne sais plus qui, j'ai oublié le nom, si quelqu'un peut chercher à ma place.
Je vais chercher.
Et qui, du coup, un livre de SF, et qui parle notamment de paracausalité, c'est-à-dire d'événements qui se passent en dehors d'une causalité logique. Et le jeu va assez jouer là-dessus aussi. Et ouais, et c'est très très cool. Et ce qui est très sympa aussi, c'est que du coup, il va vous expliquer au fur et à mesure comment on en est arrivé là. C'est-à-dire qu'il y a une situation un peu merdique et qui va se dégénérer de plus en plus. Et en fait, tu vas t'en rendre compte au fur et à mesure des mémos et des rencontres que tu as aussi avec d'autres personnages et d'autres événements qui vont arriver, que effectivement, tu vas commencer à comprendre pourquoi. Ça a déconné. Il y a cette histoire de Shaman Orono, il y a l'histoire de ce qu'ils appellent la bioresonance dont ils se servent pour créer les androïdes, mais qui ne comprennent pas et qui ne maîtrisent pas totalement et qui fout la merde et qui du coup permet apparemment de faire des choses un petit peu en dehors de la causalité, un petit peu en dehors de la réalité et de foutre la merde justement dans ces boucles qui se répètent tour par tour. À chaque fois, à chaque run et tout ça. Il y a un côté un peu méta avec le côté jeu vidéo, tu sais, que tu joues, rejoues, etc. Et c'est beaucoup trop spoilé que de raconter tout ça, en vrai.
J'ai l'impression que tu galères à pas spoiler autant qu'on avait galéré pour...
c'est à peu près ça, hein.
Et du coup, ça m'accroche un peu, tu vois.
J'avoue, ça a l'air assez chouette, hein.
C'est très très compliqué de le raconter sans doute, parce que là, je raconte énormément que je devrais pas dire. Mais t'as un vrai propos sur l'identité, surtout l'identité dans une société où tout est normé, où tout est vraiment mécanisé dans le fonctionnement. C'est-à-dire que les androïdes, ils ont tous un rôle, les superviseurs humains, ils ont tous un rôle. À un moment, t'as un document qui dit je ne comprends pas que telle personne passe son temps dans des frivolités, genre la peinture ou la musique, dans une société où on essaie d'optimiser au mieux notre temps de rentabilité, tu vois.
On
est sur ces trucs-là, tu vois. Et d'ailleurs, t'as la limite de 6 emplacements dans ton inventaire qui est justifiée dans le lore, c'est-à-dire que les androïdes n'ont pas le droit à la propriété.
Et donc ils peuvent pas transporter. Oui, c'est au tout début, je crois.
T'as une espèce d'affiche qui te dit voilà, la propriété est un luxe,
ne transportez pas plus de 6 objets sur vous à tout moment,
tu vois.
Mais t'as plein de trucs très bien vus comme ça, effectivement, dans le jeu, même au tout début, parce que j'ai fait la première heure en direct il y a 2 semaines. J'ai pas été beaucoup plus loin, malheureusement, depuis. Mais t'as effectivement tout un tas de trucs très 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 bien vus comme ça, dans lequel, vous pouvez pas transporter plus de 6 objets en même temps, en fait, c'est une espèce d'ordre. Et tu sens, en fond, même sur le tout début du jeu, c'est pour ça que je trouve pas que ce soit un très gros spoiler, tu sens dans le fond, même dans le tout début du jeu, la question qui se posait par certains philosophes justement soviétiques, la question de l'individualité dans une société collectiviste. Et on est un peu dans ce genre de choses-là.
Ah mais on est complètement là-dedans.
T'as tout à fait ce... Comment dire, cette espèce de sous-texte là-dedans qui est dire, mais si... quelle est la différence entre l'homme et la machine si finalement vous faites tous des tâches débiles, répétitives et complètement connes et que vous avez juste un truc à signer.
Surtout quand les machines sont finalement humaines vu qu'elles ont l'esprit d'un humain à la base,
ça ressemble un peu, tu retrouves un tout petit peu un bout de Battlestar Galactica finalement, dans lequel tu as des machines qui ont des corps et des formes humaines. On est pratiquement dans ce truc là c'est pas tout à fait ça non plus.
Il y a beaucoup de gens qui voient des références à Evangelion, mais moi je vois surtout des références à Ghost in the Shell aussi, dans le genre où la limite entre humain et machine est devenue très floue.
Elle est pas seulement floue parce qu'on a affaire à des androïdes qui ont une apparence humaine, elle est floue parce que finalement la société a remis au même endroit l'humain et l'androïde qui finalement font à très peu de choses près la même chose sans créativité particulière de l'humain sur l'androïde et ainsi de suite. Donc il y a toute une réflexion autour de ça que tu sens en sous-texte dès le début et qui est très bien vue, et je suppose que c'est encore plus développé après.
Ah du coup c'est assez proche de ce que fait Asimov avec les robots.
Ah, on est peut-être pas très loin non plus. Hein. J'ai pas assez lu Asimov pour te dire si c'est ça.
Moi non plus, honnêtement.
J'en ai lu un peu, mais pas trop.
Dans Asimov, t'as quand même un gros propos sur justement la robotique et les limites des robots, puisqu'ils ont des règles qui sont assez connues. Et en fait, toute la grosse majorité des histoires tourne autour finalement de la conscience des robots, ou non d'ailleurs. On retrouve dans pas mal d'autres trucs derrière, notamment Nier Automata, dont c'est le propos principal quand même.
Tout à fait.
Yes.
Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant. Et tout ça, effectivement, englobé dans une mécanique qui, encore une fois, le jeu serait sorti au tout début des années 2000 sur PS2 ou quelque chose comme ça.
Ah ouais, mais clairement...
On était en plein dedans, quoi.
On était d'accord. En plein, tout à fait, on était en plein. Mais même PlayStation, surtout que le graphiquement, oui. C'est pas... Voilà, c'est pas un jeu qui va être en 1080p, ça
rase bah si, au contraire. Voilà. Alors, il est... Je trouve le jeu...
Il est superbe, moi je le trouve magnifique.
Absolument magnifique, par contre, c'est vraiment du style low poly.
C'est ça.
Pas d'anti-aliasing.
Pas d'anti-aliasing.
Il y a un côté flashback.
C'est ça.
Il exploite cette patine. On n'a pas beaucoup de moyens, mais on fait beaucoup de choses. On fait des trucs qui, dans la direction artistique, qui vont dans ce sens-là, tu vois. Ils essaient pas de faire du photoréalisme. Non, ils font un truc qui marche très très bien, avec des modèles 3D qui sont très épurés et volontairement un petit peu brut de décoffrage, mais ça marche très bien. À aucun moment tu as l'impression de dire ah bah ça c'est un petit peu mal fait. Non, ça marche tout à fait.
Tu plisses les yeux, tu le mets sur un CRT, effectivement tu croirais être sur PS1 quoi.
Il y a un mode CRT.
Littéralement. Et il y a un mode CRT qui est d'une qualité discutable. Hein, bah.
Non, j'ai bien aimé. Moi. Juste c'est chiant pour les trucs à lire parce que des fois ça bouffe un peu les lettres. Juste ça, petit défaut.
Comme à l'époque. Excuse-moi, hein, mais...
Ah ouais, mais c'est chiant quand t'arrives à lire la moitié du truc.
Il est authentique, mais en même temps, c'est en allemand, donc tu vas rien lire, voilà.
Alors, c'est bien, oui, c'est bien d'avoir des bases d'allemand.
Alors, ça, c'est bien d'avoir des bases d'allemand. Non, en vrai, si, c'est... Tu comprends plus facilement certains trucs.
Oui, comme ces saloperies d'ennemis à la radio, là, qui te envoient Stirb. Enculé, là. C'est toi, moi, qui vais te crever, salaud.
C'est moi qui vais te crever, grosse merde.
Oui, et en termes d'énigmes, parce que j'ai pas dit à propos de ça, les énigmes, alors, c'est pas très compliqué, elles sont un petit peu au-dessus, en fait, du niveau des survival, c'est pas des énigmes très bidons. Alors, je crois que Mortal t'a fait le Trials and Error avec la clé.
De Tormented Souls?
De Signalis, justement, le...
Oui,
la clé, voilà.
Ce qui était plutôt malin. Faudra qu'on parle un tout petit peu, peut-être, des énigmes de Tormented Souls. Alors, j'en profite, j'en parle maintenant. C'est des énigmes généralement assez tordues, avec vraiment des trucs un peu absolument absurdes par moment. Donc là-dessus, c'est peut-être pas l'aspect le plus réussi du jeu, mais c'est vrai que par rapport à un Resident Evil, dans lequel, bon, les énigmes se contentent généralement de la bonne clé dans la bonne porte... Et c'est à peu près tout. Là, c'est un peu plus original, mais du coup, dans un jeu de ce type-là, je trouve qu'il vaut mieux avoir des énigmes un peu plus simplistes. Ce que j'aime bien dans celle de Signalis, justement, c'est qu'elles sont finalement très interactives et plutôt cohérentes avec l'univers, en tout cas de ce que j'ai pu en voir au départ.
Bah, ça va continuer de courir. Alors, à un moment, ça part un peu en couille, mais les énigmes sont pas plus compliquées pour autant. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont pas tirées par les cheveux, surtout. Je me rappelle d'une énigme dans Silent Hill 2 qui était, ou 3 je crois, qui était quand même assez gratinée à base de Shakespeare il me semble.
Alors je sais pas, moi je me rappelle d'une énigme dans Resident Evil 3, c'est un taquin, et en fait je sais pas faire les taquins, donc je suis resté coincé genre 2 heures dessus.
Alors c'est facile, il suffit de tourner jusqu'à ce que ça rentre.
Alors,
titre, ouais.
C'est un peu facile ça monsieur.
Mais non, les énigmes de Signalis sont bien intégré dans la genèse du truc, c'est-à-dire que vraiment tu te dis, bon bah il y a un moment, t'as un réservoir d'eau à vider, bah t'as deux réservoirs de tant de quantité, un réservoir plus petit, enfin non, trois réservoirs qui ont une quantité différente, et tu dois faire le niveau entre deux, tu vois, par exemple.
Oui, voilà, c'est donc, un truc un peu classique.
Tu tournes, c'est classique, c'est... Faut connaître le tips, enfin, se rendre compte du tips pour te dire, bah en fait tu fais ça marche, et... Rien n'est très tiré par les cheveux, tout est compréhensible assez facilement. Je les ai trouvées assez sympas, parce qu'en fait, elles sont suffisamment intelligentes pour que tu te sens un petit peu gratifié quand tu les réussis. Et elles sont pas trop compliquées non plus, c'est-à-dire que tu vas pas passer des heures dessus. Il y a aussi alors une radio, qui est aussi un héritage de Silent Hill, mais qui est étendue. Ça fait partie des trucs hérités d'un ancien jeu, mais qui est un petit peu revisité.
Oui, revu et corrigé.
Ou donc radio qui va te permettre par exemple de résoudre des énigmes. Donc soit en trouvant une bonne fréquence, soit en réglant du coup des trucs qui vont diffuser sur une fréquence, tu te branches dessus, tu te mets sur le truc à résoudre, et puis hop, par exemple, il y a un coffre-fort à ouvrir en chopant les... en chopant des fréquences qui sont diffusées à certains endroits, et en fait, ça te balance les codes. Donc tu as truc basique, et puis après, tu as un coffre où les codes, c'est plus des chiffres, contrairement à ce que tu captes à la radio. C'est ça ? Non, c'est des lettres. Et du coup, t'as un papier où tu dois faire la correspondance et trouver la lettre qui manque sur le papier,
oui,
par exemple.
C'est sympa,
plein
ça.
De trucs à la con comme ça. Et qui marche très bien.
Ok. Bah je n'en doute pas. Et du coup, avec tout ce qu'on se dit là sur ces deux jeux en particulier, mais on a parlé un peu de RE2, on a parlé un peu de RE3 et tout ça, est-ce que vous pensez finalement que ces mécaniques un peu revues et corrigées sauce moderne, on vient de parler de la radio où, c'est inspiré d'un truc qui existait, mais revu, corrigé, modernisé, on en fait autre chose, on essaie de trouver un twist un peu nouveau. Pareil pour les ennemis, la visée, on essaie de faire quelque chose. Est-ce que vous pensez que tout ça, ça peut amener effectivement à que plus de gens commencent à s'intéresser à ce style-là?
Je pense que déjà, avec le retour en force des vieux survival qui sont remasterisés, etc., je pense que déjà le grand public va commencer à s'y intéresser un petit peu plus. Et à mon avis, il y a pas mal d'indés qui vont embrayer aussi. Déjà, on voit déjà qu'il y a une espèce de mouvement qui s'est amorcé depuis un moment. Je sais pas ce qu'en pensent les autres.
Bah, pour moi, c'est clairement les indés qui ont repris le flambeau après que, à l'époque 360 PS3, tout le monde ait abandonné le style à l'ancienne pour faire du Resident Evil 4 en survival horror.
Ouais.
Et quand même Resident Evil est devenu une parodie de lui-même avec ses films dans le 4, le 5 et surtout le 6 en termes d'action. Alors, les indés étaient sur le truc à faire des trucs beaucoup plus tranquilles. Mais oui, t'as un jeu comme Resident Evil 2 qui, du coup... déjà, Resident Evil 7, on n'en a pas parlé, mais... pour moi, c'est un jeu qui reprend énormément l'influence des jeux indépendants d'horreur.
Mmh.
Vu la première personne,
oui,
le début assez oppressant avec cette maison glauque, là.
Il reprend clairement les codes d'un Amnesia ou d'un truc comme ça.
Hein, ah oui, clairement.
Très, très clairement.
Et du coup, Resident Evil 2, finalement, le remake, c'est que la suite logique de ce qu'ils ont fait avec le 7, c'est-à-dire on adapte et on remasterise à un niveau plus moderne. On revoit avec ce qu'on connaît, quoi. Enfin, on fait du neuf avec du, pour ainsi dire. Mais du coup, L'idée, c'est de garder les sensations, mais pas forcément les contrôles. Et en fait, on se rend compte que, on va prendre les contrôles tank, mais.
C'était. Signalis comme Tormented Soul me fait dire que même les contrôles en fait sont pas tant un problème que ça. Les contrôles tank, c'est un peu chiant, mais en fait ça peut s'adapter en étant un petit peu malin pour faire quelque chose qui marche. Ce qu'il faut, c'est trouver quelque chose qui fonctionne, qui peut faire fonctionner des combats. Je pense que c'est surtout ça qui fonctionne bien dans ces jeux-là et qui ne fonctionnait pas forcément dans tous les hero-like qu'on a vu fin des années 90, début des années 2000. C'était surtout les contrôles qui étaient un peu pénibles. C'est effectivement avoir systématiquement du tank, effectivement avoir des contrôles pas très orientés action. Je pense que RE2 aussi a résolu ce problème-là avec la caméra à la troisième personne. Hein. Ça permettait de...
Moi, j'avais un exemple de jeu qui début des années 2000, qui n'avait pas forcément de gros contrôle tank. C'était Eternal Darkness, qui est quand même plus agréable que les premiers Resident Evil.
Oui.
C'est oui, c'est vrai. Et pourtant, tu avais des angles moderne. De caméra qui étaient un peu, qui faisaient penser aux angles fixes, du coup, de, enfin, au
oui,
plan fixe.
C'était le but, hein. Non, je pense pas que c'est un truc qui va revenir dans les jeux grand public, puisque de toute façon, c'est le genre de mécanique trop casse-gueule et trop niche pour un jeu triple A. Et quoique encore, Resident Evil 2 a montré que ça pouvait très bien marcher. Par contre, pas clairement sur du jeu indépendant ou à plus petit budget, c'est le truc qui va se faire. En fait, de toute façon, dans le jeu vidéo, j'ai envie de dire, on fait souvent du neuf avec du vieux, et Dark Souls a montré qu'effectivement, on pouvait avoir des jeux qui nécessitaient de la patience de la part des joueurs, d'être aussi plus prudent à leur façon de faire, ce qui correspond bien à Survival Horror, mine de rien.
Oui, c'est ça.
Complètement, ouais. Complètement. Écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc, on a quand même une mini critique de Tormented Souls, une mini critique de Signalis. Donc, ça fait plaisir. Même s'il y aura donc une vraie critique sur le dojo de Signalis normalement dans quelques jours.
Critique.
Ça
sera un vite vu.
Un vite vu, c'est bien. J'en ferai peut-être un sur Tormented Souls. Faudrait que je le refasse, du coup, pour être sûr d'avoir bien dans les doigts. Parce que c'est vrai que c'est typiquement le genre de jeu où je pense qu'à petit prix, on peut le recommander. Signalis, il est vraiment à prix d'amis, hein. C'est à 30 balles dans n'importe quel Fnac, et je pense qu'il les vaut très largement.
Et il y a une version physique, et ça c'est cool.
Exactement.
Avec une petite photo comme dans le jeu.
Une petite photo comme dans le jeu, qui est très bizarre au départ quand tu sors le truc de la boîte. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis c'est un des premiers objets que tu trouves en fait. Donc
oui.
c'est très. Il y a un côté très quatrième mur presque quand tu trouves la photo dans le truc et tu te rends compte que c'est la photo que t'as dans la boîte. C'est un peu bizarre. Voilà, donc on va se quitter là, je pense, parce qu'on a déjà fait une bonne émission là, c'était sympa. Et puis on va se retrouver dans deux semaines et je sais pas du tout de quoi on va parler. Voilà, j'en ai absolument aucune idée. On aura eu pas encore de Tears of the Kingdom, donc ça va être un peu compliqué.
Du rétro.
Taper dans le backlog.
Faut falloir aller taper dans le backlog. On pourrait peut-être se refaire un petit pot pourri d'indé. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un petit truc avec.
Vrai.
Ah oui, avec Signalis, du coup.
Oui, avec Signalis, donc on est bien. Les qui tombent en rond. Voilà, donc on va essayer de se faire un petit truc. Voilà, on va essayer de toute façon de trouver quelque chose. Il y aura peut-être de l'actu entre deux, on ne sait pas. Il y aura peut-être des choses qui vont dropper. Voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, on se retrouve dans une semaine en podcast, dans deux semaines en direct. On vous fait de très gros bisous et on vous dit à dans deux semaines. Bisous.
Bisous.